Une différence pour en comprendre d'autres.
Le fait d'être différente t'a-t-il ouverte à ce que peuvent vivre d'autres personnes ayant d'autres singularités? Cela a-t-il renforcé ta compréhension du parcours de chacun?
Depuis ma plus tendre enfance, on m'a appris les différences. Pas seulement parce que je suis moi-même différente, mais parce que j'ai le bonheur d'appartenir à une famille ouverte d'esprit. Et j'ai eu la chance que l'on m'apprenne aussi à bien vivre avec ma propre différence. Alors, c'est vrai que j'ai peut-être tendance à être plus attentive à ce que je sens fragilisé ou menacé. Je suis la première à m'amuser de quelqu'un qui a un look volontairement original, excentrique, extravagant, parce que cela relève d'un choix et que, parfois, le résultat est assez drôle. Mais je me souviens de m'être énervée parce que, lors d'un dîner au restaurant, des copains avaient commencé à vanner sur quelqu'un qui n'avait pas vraiment été gâté par la nature. C'est vrai que c'était difficile d'imaginer plus moche. Sauf que cette personne n'y pouvait rien. Il ne s'agissait pas d'un mauvais choix de sa part, mais de ce qu'il était. J'ai entendu des rires qui ne m'ont pas plu, et j'ai démarré en trombe. Tout le monde a compris que je ne plaisantais pas. Il y a une énorme différence entre rire d'une nature, ce qui est cruel, et rire d'une erreur de goût sans réelle conséquence, ce qui est bien humain. On fait tous avec ce que l'on est. J'ai tendance à prendre les gens comme ils sont, avec bienveillance, parce que j'ai l'impression d'avoir surmonté une fragilité. J'essaie d'employer ma petite force au profit de ceux qui n'ont pas encore fait le même chemin que moi. J'éprouve beaucoup d'empathie pour les gens qui ont un vrai problème de différence, quelle qu'elle soit. Avec eux, j'en parle simplement, mais ouvertement. Je reçois souvent sur les tournages des enfants ou des ados malades, dont le rêve était de me rencontrer, et je pose les questions franco. Il ne faut pas faire comme si les problèmes n'existaient pas. Il ne s'agit pas de les nier, juste de les intégrer comme des paramètres supplémentaires. Je demande d'abord « Quel est le problème ? C'est quoi ta maladie ? Que s'est-il passé ?» Souvent, les gens ont peur de parler, de dire, par crainte de gêner ou d'être gênés. Je suis désolée, mais moi j'en parle. Le môme, qui vient de passer un an à l'hôpital en chambre stérile, qui a reçu une greffe de moelle osseuse, c'est super important d'en parler et de dire « Tu as un sacré courage de te battre comme ça. Je suis contente de te connaître et on va passer une super journée. » Et du coup, ça libère tout le monde. Quand je vois un petit dont les cheveux commencent à peine à repousser après une chimio, je préfère dédramatiser. En parler sainement, sans s'apesantir, mais ne pas prétendre que ça n'existe pas.
Je rebondis sur ce que tu disais. Les gens avec qui tu étais au restaurant et qui se sont moqués de cette personne révèlent un moteur classique de la nature humaine. As-tu essayé de l'analyser?
Leur réaction après ma colère est tout aussi révélatrice d'un autre moteur de la nature humaine. Quand on explique, quand on dit les choses, les gens peuvent changer leur comportement. Mes copains ont tout de suite réalisé la stupidité de leur réaction. Je leur avais fait remarquer, si moi j'entrais dans un restaurant et que les gens me vannaient comme vous venez de le faire, vous seriez les premiers à aller leur claquer la tête pour les remettre à leur place. Donc, stop. Arrêtons. Et je crois que je serai comme ça jusqu'au bout de ma vie.
Tu n'as pas répondu sur le fait d'identifier ou pas ce moteur, qui correspond à transformer la peur de l'inconnu en une forme de rejet. Est-ce que tu ne veux pas y penser parce que c'est un gouffre où le pire de l'humanité nous attend? Ou bien est-ce quelque chose que tu combats?
C'est quelque chose que l'on combat au quotidien parce que l'on finit toujours par tomber sur des individus stupides ou malveillants. Cela peut surgir n'importe où, n'importe quand, même chez des proches. Lorsque cela se produit, quand je vois ce mécanisme de dénigrement se mettre en route, je ne peux pas m'empêcher de réagir. Et là, on me balance parfois « Mais pour qui vous vous prenez, juste parce que vous passez à la télé ?» La logique du mépris et de l'insulte est poussée jusqu'au bout. Au fond, ce n'est pas surprenant de la part de gens qui cherchent à exister en détruisant ce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne me regardent pas, ni dans la vie, ni à la télé. Ils ne regardent d'ailleurs personne d'autre qu'eux. Je ne les envie pas.
On sent quelque chose de très idéaliste en toi. Cet idéalisme est-il le fruit des épreuves surmontées ou relève-t-il de ta nature?
Je n'ai pas la réponse, mais je crois qu'effectivement, je suis idéaliste. Aussi bien pour moi que pour les autres. Autrement, je n'aurais certainement pas foncé dans ce métier comme je l'ai fait. Et je ne garderai pas un tel espoir pour notre espèce. Je suis convaincue qu'il faut beaucoup d'idéalisme pour faire avancer les choses. Il faut y croire, que ce soit dans nos vies ou dans la vie. Aujourd'hui, les cyniques sont partout, et rien ne bouge vraiment parce qu'ils bloquent tout. Qu'il s'agisse de catastrophes humanitaires ou du climat, deux enjeux majeurs selon moi. Les mêmes s'approprient les promesses, ils s'approprient même nos solidarités, mais ce n'est qu'une autre façon pour eux de profiter. Tu es un idéaliste aussi, cela se sent dans tes romans. Tu as foi en l'être humain, n'est-ce pas ?
Je ne me définirai pas comme un idéaliste, mais comme un optimiste révolté. On confisque les élans les plus purs, on les détourne, on les dilue, on les pollue. On prive les gens de leur action. On prive notre quotidien des leçons apprises par les générations qui nous ont précédés. Après la Seconde Guerre mondiale, tout le monde a juré la main sur le cœur qu'il n'y aurait plus jamais d'Auschwitz, que plus jamais on ne permettrait ces drames humains scandaleux. Pourtant, des barbelés, des murs, des camps, des peuples que l'on tente d'éradiquer pour n'importe quelle raison, il y en a encore beaucoup, dans de nombreux pays. On le sait, on le voit tous les jours, c'est à la télé chaque soir, personne ne peut plus se planquer derrière le prétexte qu'il ne sait pas. Mais qui doit réagir ? Nous, simples individus ? Ou est-ce que ceux que l'on nomme et que l'on paye pour gérer les affaires qui nous dépassent devraient s'en charger ? Ma révolte est là. Beaucoup ne font pas leur travail. Trop n'assument pas la tâche pour laquelle ils se sont généralement portés volontaires. Les pays parlent aux pays, sans double langage. Les individus doivent parler aux individus, sans double langage. Revenons aux basiques. On élève les gamins que l'on fait, on défend le pays que l'on prétend diriger et représenter, on finit son assiette par respect pour ceux qui n'ont rien. Le cancer de notre espèce, c'est l'irresponsabilité. Il est souvent criminel de se convaincre que quelqu'un fera à notre place ce que nous-mêmes ne faisons pas. Il n'est pas question de reprocher à un individu de ne pas aller sauver un pays étranger d'une tyrannie barbare, mais on peut blâmer ses manquements quotidiens. Tout commence là. Si la base n'est pas carrée, il n'y a aucune chance que cela s'arrange dans les étages supérieurs. Je suis d'accord avec toi, c'est un combat au quotidien, au porte-à-porte, et c'est à ce prix que nous deviendrons ce que nous prétendons être dans un semblant de paix générale.
Tu sais ce que répondront les cyniques à ton discours.
Que je suis un boy scout, un naïf, un moralisateur, je m'en fous. Leur seul pouvoir consiste à commenter ce que d'autres font. En général, dès qu'ils ont un problème, ces braves gens sont bien contents d'appeler à l'aide ceux qu'ils insultent le reste du temps.
Et toi, le fait d'avoir été abandonné t'a-t-il rendu plus perméable aux problèmes des autres ?
Comme toi, je ne sais pas à quoi je le dois, mais je réagis à la douleur et à la détresse des gens. Je suis incapable de voir quelqu'un pleurer dans la rue sans m'en approcher. Peut-être à cause de mon histoire personnelle. Peut-être parce que la vie m'a enseigné que le pire qui puisse nous arriver, c'est la solitude. Je suis particulièrement sensible à ce fléau. Cela ne se voit pas. Les gens seuls ne sont pas forcément tout petits ou n'ont pas forcément été abandonnés à la naissance. Ils ne sont pas obligatoirement d'une ethnie ou d'une culture particulière. Mais ils souffrent. Quand on est même seulement deux, on peut guérir de tout. Notre meilleur médicament, c'est la rencontre. N'en sommes-nous pas à l'épreuve vivante, toi et moi ? Tu as le pouvoir de serrer tes parents dans tes bras, et j'attrape les yaourts que je veux sur les étagères du haut au supermarché. L'inverse est impossible. Je déteste ce mot, mais il est plus fort que nous et nos idéalismes. Pourtant, à nous deux, tout change. J'ai eu la chance d'embrasser tes parents, et n'hésite pas à me dire si tu veux les mixer aux fruits qui sont hors d'atteinte. Ce n'est pas grand-chose, mais cela nous permet déjà de dépasser nos propres limites. Chacun peut mettre en place ce genre d'alliance, pourvu qu'il se présente à celui qui est en face. C'est ce moteur-là, direct, naturel, instinctif, que l'on ne doit laisser personne nous confisquer pour en faire une bonne affaire.